nie pana Seminy.
Idź!
La première chose, c'est que vous suivez parce que vous voulez savoir d'où je viens. Moi, je voulais savoir d'où vous venez, vous autres. Vous allez savoir d'où je viens, moi. Il y a un an et demi, je savais pas grand-chose qui s'en compte, mais depuis que j'ai 13 ans, il y a un chalet sur la ville de Superwell. Mon père l'a acheté, puis il a acheté mon père avec mon épouse. Ça fait 40 ans que je suis dans les parades. Quand j'étais jeune, je me suis fait un ami à Ottawa, Mario Raymond. Puis la ferme des Raymond, qui est encore la sœur Sylvie. Quand j'avais 17-18 ans, j'allais faire des travaux sur la ferme, je pouvais être gros bâton. Et j'ai appris comment les choses se passent sur une ferme. C'était une expérience très spéciale pour moi. J'ai commencé à retourner voir ces gens-là parce que je trouve ça très sympathique. Monsieur Raymond est malade et tout ça. Alors, j'ai des attaches avec cette famille-là, une famille rurale, parce que moi, je suis quelqu'un de la ville. Puis le canton de Cameron, pour moi, représente un milieu rural qui n'a pas évolué au même rythme que la région environnante, même si près d'Orléans, il y a une région industrialisée, commerciale, etc. Mais quelqu'un qui prend une bicyclette qui se promène dans le canton de Cameroun, peut se sentir dans une région rurale, même assez ancienne, des bouts du canton qui sont très bien préservés à l'ancien mode de vie. Musée, c'est ça que vous voulez reproduire et expliquer aux gens ce que c'était il y a longtemps. Deuxième chose pour vous situer. Je suis en train de devenir un expert sur l'histoire avant la Confédération. Il faut que je dise ça aux gens, parce que si vous me demandez de parler au sujet de la dépression, je peux vous dire des choses au sujet de la dépression. Si vous voulez savoir des choses dans les années 1880-90, je peux vous en dire. Mais ce que je veux accomplir, c'est une spécialité en histoire pré-confédération. Je vais commencer à vous parler de ça ce soir, parce que vous allez voir que si vous savez qui sont les premiers qui sont arrivés ici, dans quelles conditions ils sont arrivés ici, vous allez comprendre beaucoup de choses qui vont éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Les rancunes ethniques, la politique, les églises, la situation, comme je viens de vous dire, qu'il n'y a pas un sous-développement, mais une certaine réticence à évoluer au même rythme que la grande ville. Vous allez comprendre tout ça parce que tout ce qu'on a aujourd'hui s'explique par des raisons historiques. Ce n'est pas un mystère, ça. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas un reflet, mais un héritage de ce qui est venu avant. C'est impossible de faire autrement. Maintenant, ça me situe. Ça me situe à vos yeux. Je veux que vous me posiez vos questions à mesure que ça vous vient à l'esprit. Parce que ça va enrichir. Moi, je ne peux pas penser à tout. Et je m'en vais dans une direction. À mesure que vous posez des questions, on va étoffer. Et toujours, mon expérience avec les groupes, c'est que c'est la meilleure chose. Si vous attendez trop longtemps, vous avez perdu l'idée. Ensuite, moi, je manque une occasion d'aller chercher des éléments qui sont très intéressants et ça va venir de vos questions. Alors là, je vais situer. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? On va attendre que je dise quelque chose de constructif. Ensuite, vous posez des questions. Il y a une école dans le canton qui s'appelle Domaine Fauval. Bon résumé du canton, de l'histoire du livre. Pourquoi vous pensez que ça s'appelle Donning-Rabel? C'est parce que les deux familles primaires du canton sont les familles Donning-Faubert. Faubert est devenu Foubert. Et vous allez voir, tout au long de mon exposé, je vais être forcé de parler de choses parfois désagréables au point de vue groupe ethnique et religion et antipathie entre groupes religieux et tout ça. On ne peut pas l'éviter, c'est l'histoire du canton. En parlant des francophones, même pas en parlant seulement des francophones, quand je parle des anglophones, ils vont savoir très vite que je suis essentiellement un franco-ontarien qui a aucune antipathie envers les anglophones, parce que dans ma famille, il y a tout ça, les Hollandais, tout ça, vous voulez. Puis ce que j'essaie de faire dans toutes mes recherches, c'est de surmonter les anciennes rancunes, les choses qui encore créer une haine entre les groupes, parce que ça existe encore. Quand on parle d'orangistes, ça n'en parle. Il y a encore des sources de friction entre les groupes. Et moi, ce que je veux faire, c'est aller au-delà de ça, parce que tôt ou tard, je vais écrire un livre. Ça, c'est mon but. Quand je fais de la recherche, je vais écrire un livre qui explique certaines choses. Donc, on ne peut pas expliquer les choses avec des jugements et valeurs négatives, tout ça. Je vais essayer d'intégrer, de comprendre les gens pourquoi ils faisaient ce qu'on fait. simplement exposer les faits, puis c'est aux gens à dire, nous, ça c'était pas gentil, ou ça c'était pas, ça avait fait quelque chose de mal, etc. Et moi, ce que je veux faire, c'est exposer ce qui est arrivé. Avec peut-être des choses comme c'est triste, c'est dommage, mais vous n'avez pas de jugement de valeur de ma part, des choses comme ça. Alors, ça revient aux deux familles pionnières. Même avant ça, je vais vous situer. Parce que c'est pas tout le monde qui. Avant, le Haut-Canada, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Québec. Le Québec est tombé en 1760. Puis avant que le Haut-Canada existe, ça commence en 1791. Qu'est-ce qu'il y avait en 1791? Il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce qu'on appelle aujourd'hui Ontario? Absolument rien. Parce qu'on ne voulait pas. Même du temps des Français, de régime français. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une colonisation de la ligne sud de l'Outaouais? Pendant le régime français, il y avait des belles terres. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu? Mais c'est parce que les gens de Québec ne voulaient pas qu'il y ait une colonisation. La raison qu'on montait l'Outaouais pendant deux siècles, parce qu'on peut aller chercher des fourrures, des ramiers à Montréal, faire des sous pour certains groupes en France et au Québec. Strictement des raisons économiques. La meilleure chose à faire, c'est de refuser la colonisation à qui que ce soit. Savez-vous qu'on a fait ça à Terre-Neuve? On y fait exploiter les pêcheries de Terre-Neuve pendant deux siècles avant qu'on permette à quelqu'un de passer l'hiver à Terre-Neuve. On ne voulait pas que les gens s'établissent. C'est la même chose dans l'Outaouais. Quand les Britanniques ont conquis la France pour gagner le Québec à l'Empire britannique, ils ont perpétué la même politique. On ne touche pas à ce qu'on appelait les Upper Ottawa, en haut du non-sous, les pays d'en haut, quand les gens contestaient pour les pays d'en haut, on ne touche pas à ça comme colonisation. On a continué à faire la tête des fourrures. On avait des fourrures à Montréal, c'était une source de revenus, parfois la seule. Pour longtemps, c'était à peu près la seule. Alors, rien n'a changé en 1791. Si on regarde l'Ontario, ce qui est aujourd'hui l'Ontario, rien n'a changé. Il y a des Indiens. Oh, il faut que je vous dise aussi, il y a une autre raison pour ne pas coloniser. Parce que ça va agacer les Indiens. On a déjà causé beaucoup de tracas aux Indiens. Énormément de tracas. Si vous voulez savoir quelque chose qui est triste, c'est l'histoire des Indiens. Mais ce n'est pas mon rôle de vous raconter ça. Mais les Indiens ont été dispersés. Les Indiens qui m'intéressent, moi, c'est des Algonquins. Les Iroquois ont fait la guerre aux Algonquins au début du régime français. Les Iroquois sont des Indiens sédentaires qui s'établissent et qui cultivent le sol. Les Algonquins sont nomades, vivent dans la forêt, sont paisibles, relativement parlant. Parce que les Iroquois sont très agressifs parce que une peuplade qui s'établit dans un endroit devient possessive, territoriale, jalouse, très structurée, mieux structurée, plus forte, donc encore plus agressive, etc. Tandis que les nomades n'ont pas le loisir d'être agressifs. Un petit groupe de 20 Algonquins, c'est le maximum. Les gens ne peuvent pas vivre dans la forêt en groupe énorme. C'est pas possible. La vie nomade est extrêmement pénible. Il y a des disettes, il y a des moments d'années où pendant plusieurs années, on ne trouve pas le gibier, etc. On meurt, on crève de faim. Alors la vie d'un nomade, c'est pas facile. Donc les peuplades algonquines sont dispersées d'avance. Quand les Iroquois ont fait la guerre aux Algonquins, ils les ont dispersées encore plus. Tranquillement, il y a des Algonquins qui sont revenus dans l'Outaouais. Quand les Iroquois ont été repoussés vers le sud, on leur a donné des réserves, on les a domestiqués, on les a par la force des choses. Sur les sud du Saint-Laurent. Tranquillement, les Algonquins sont revenus reprendre leurs anciennes terres. Toujours pour une chose, c'est la tête des fourrures. Là, je reviens à mon sujet. Parce que quand on arrive en 1791, on va commencer à voir des choses organisées en Ontario. C'est pas l'Ontario, c'est le Haut-Canada. Après la guerre d'indépendance des États-Unis, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas voulu faire la guerre contre l'Angleterre qui s'en viennent vers le Canada. Parce que, depuis 1760, tout le nord de l'Amérique, c'est britannique. Alors, si moi, je suis quelqu'un qui voulait défendre le roi d'Angleterre aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance, on me fout à la porte, on me menace, on prend mes terres, on brûle ma maison, puis on me chasse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Retourner en Angleterre ou bien je monte au Canada? Puis si je monte au Canada, je suis chez moi. parce que le Canada est britannique. J'ai peut-être déjà de la parenté au Canada. Alors, il y a des milliers qui s'en viennent au Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Sud du Québec, Canton de l'Est. Puis il y en a qui ont déjà acheté un billet, qui vont être une très belle terre de long du Saint-Laurent, puis aussi dans l'Outaouais. Mais au début, c'est surtout le sud du Saint-Laurent, Kingston, Bay of Quinte, Toronto, York, Bella Niagara, vous savez, monsieur. On commence à prendre des terres. Mais ça suppose une chose. Ça suppose qu'on ait pacifié les Indiens, parce que les Indiens sont partout, les Autochtones, les Aborigènes. Alors on a fait, dans les années 1780, on a fait des choses plus ou moins belles pour obtenir des Indiens qui nous cèdent leur terre, leur propriété. Ça a été le drame. La possession des terres d'Amérique du Nord, ça n'a jamais été facile. Les gens qui sont là ne veulent pas nécessairement céder leur territoire. Et les gens qui s'en viennent.
Quand tu dis nous, c'est.
Les Blancs.
Parce que c'était.
Les Européens.
Les Français.
Parce que j'avais l'impression que les Portugais avaient une façon très différente de.
Je reviens un petit peu, tu as parfaitement raison que vous avez une distinction. Le français typique est ouvert au mélange racial. Les milliers de métis au Manitoba sont descendants d'alliances entre français et autochtones. C'est tout à fait accepté, c'est souhaitable s'il n'y a pas de tabou social comme on a dans le monde anglophone. Aux États-Unis, c'est déjà beaucoup plus pénible, où on le fait à la cachette, où on ne l'aime pas trop. Je ne veux pas faire de généralisation absolue, parce qu'il y a des Américains qui ont marié les Autochtones. Mais ce n'est pas aussi accepté que ça l'est sous le régime français. Je vais dire même plus loin. Je dirais que les milliers de jeunes qui se ramassent à Montréal tous les printemps pendant le régime français et qui partent dans les canaux pour les pays d'en haut, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas la même année. Il y a deux types de voyageurs. Il y en a qui reviennent l'année même avec des fourrures. Il y en a d'autres qui font des contacts, qui établissent des postes, etc., puis qui doivent rester plus d'un hiver, ou plus d'une année. On ne peut pas demander à un jeune de 22 ans d'être un moine et d'être abstinent pendant 2-3 ans. On ne peut pas demander ça, puis même si on le demandait, ça n'arriverait pas. Alors, on appelle ça prendre une femme du pays. Alors, les Français s'allient avec les Autochtones. Puis si vous étudiez les noces des Indiens, il n'y a rien de s'en aller du côté des Indiens. On a pu juger que leur sexualité était décadente, etc. C'est parce qu'on n'a pas compris. Leur façon de faire des choses. Puis, je dirais même jusqu'à dire que pour un Indien, il y a peut-être des bonnes raisons de s'allier avec un Français. C'est un nouveau monde, c'est un monde de personnes qui ont des choses très intéressantes à faire aux Indiens. Tout sont outils, des beaux bijoux, toutes sortes de choses qu'on n'a pas ici. Il faut que vous compreniez que tout ça, c'est ça la chimie de la relation entre les Blancs et les Indiens, les Autochtones. Les Autochtones voulaient avoir des choses des Blancs. Puis les Blancs voulaient avoir des choses des Autochtones. Le drame, c'est qu'on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Nous, on voulait tout accaparer des fourrures. Les Indiens voulaient avoir des Autochtones, voulaient avoir des armes ou des soucis aussi. Quand on a vu des fusils, des haches qui pouvaient tailler un arbre beaucoup plus facilement que de la pierre. Les ustensiles en métal, les chaudrons, tout ce que vous voulez. On ne peut pas s'en priver quand on a vu ça pendant 10, 2, 3 générations. Alors tout ça, ça fait un mélange de cupidité des deux côtés. Parce que l'Indien qui dit qu'il est en harmonie avec la nature, et puis qui va tuer des animaux tout l'hiver pour avoir des bebelles, des tarures, des beaux objets, bien, vous allez admettre avec moi qu'il y a un petit peu de. C'est pas très honnête. La cupidité des deux côtés, on a anéanti les animaux par millions. Ça, c'est pas beau non plus. On a fumé les forêts. Les Algonquins eux-mêmes ont dû changer de territoire régulièrement parce qu'il n'y avait plus de bétail, il n'y avait plus d'animaux. On les tuait. Alors tout ça, ça fait un millimédo. C'est très difficile de dire toi, t'as tort, t'as raison, etc. Mais c'est ce qui se passe pendant 200 ans. On a mis en 1796 à peu près, là, les loyalistes s'en viennent. Les Britanniques s'arrangent pour eux. On les paie, on fait ce qu'il faut, qu'on les calme, on les place sur des. qui est réserve, disons, de tous ceux du Saint-Laurent qui ont des milliers de loyalistes. C'est passé ici. Une zone de canton de Cameroun, ça prend du temps. C'est très... Si vous voulez savoir pourquoi c'est pas aussi avancé que les autres, ça a pris un temps énorme avant que les gens commencent à venir faire un tour près du canton de Cameroun. Les familles sont habitées. C'est même pas qu'ils sont habitées, ils étaient là. On les remarquait pas, ils étaient là. Les Français montaient et descendaient la rivière depuis, je sais pas quand, depuis 200 ans. À un moment donné, moi je traverse la rivière de Sudawa des fois, je me place à Buckingham, je m'assois là et je regarde l'autre côté de la rivière. C'est le pays de mon chalet. Si vous voulez savoir, mon chalet se trouve sur le dos numéro 14. La première terre occupée dans le canton de Cameroun, c'est le dos numéro 14. Je suis planté, moi, sur la première terre. Alors si je vais à Buckingham, je regarde l'autre côté de la rivière où je suis là, mon chalet est là. C'est beau, c'est protégé. Est-ce que ce petit pays s'est protégé? Ça fait très simple, c'est très beau. Et la dernière, justement, à Marc-Faubert, la famille qui s'est établie dans le canton. C'est pas facile pour lui d'avoir une terre. C'est un francophone, un français, un descendant français. Ils aiment bien les gens qui ont de l'argent, les loyalistes, tout ça, qui sont donnés. On leur donne. Un loyaliste, c'est quelqu'un qui reçoit une terre gratuitement parce qu'il est fidèle au roi d'Angleterre. Ses enfants ont gratuitement des terres parce qu'ils sont les fils, les filles de loyalistes. Alors ces gens-là obtiennent des terres même sans permis. La seule chose qu'on fait, c'est un fait d'administration pour le bonhomme qui rédige le certificat. On soit 50 heures, 100 heures, 200 heures, ça dépend des circonstances. Alors la famille donnée, elle reçoit 800 heures. En plein, si on est à Buckingham, on regarde dans la petite baie, en plein là, 800 heures sur la rivière. Les données reçoivent ça. Ben, les données arrivent. C'est pas facile, c'est pas des gens. Là, si vous voulez savoir, il y a des niveaux de gens qui sont prêts à travailler fort et dur. Le fameux voyageur qui monte la rivière, un voyageur, c'est un bonhomme qui a des lunes, c'est un dur. L'instruction, c'est pas important pour une sorte d'école à 13-14 ans. Toute sa vie, c'est rien, un travail physique assommant, incroyable. J'avais, il y a deux semaines, je suis allé à la Chine, une usine, la date des fourrures. On est très succinctement, on met les conditions pour être un voyageur. Maximum 140 livres. Moi, j'ai 126. Je ne suis pas un gros homme. Maximum 140. Savez-vous pourquoi? Parce que le canot, c'est pas pour la chair humaine, c'est pour les fourrures. Alors le bonhomme, il faut qu'il soit 5'2", 5'3". 140 livres, ça c'est à peu près 52 kilos max. Puis il faut qu'il avirone pendant 10 heures par jour. Avec un petit peu de viande, avec la graisse, un petit peu de légumes pour pas qu'il y ait de scorbut. Il nous citait une vie incroyablement dure. Il n'y a pas de moi qui va accepter ça. Sûrement pas la famille Bonnet. Si vous voulez que je catégorise les choses-là, la famille Bonnet, un livre, c'est une famille malade. Du Massachusetts. Alors, on arrive ici dans le canton, on voit des gros lacs, des gros pins blancs. Il n'y a pas de clairière. On met le pied à terre, on a des arbres, on a des sentiers indiens, là, travaillés dans les autochtones. Sauf, à part ça, il n'y a rien. Et quand le gouvernement donne des terres, on va bâtir des ponts, on va organiser des chemins, ça va aller bien. L'optimisme des gens qui vendent et qui vendent des terres. Qui veulent que ça s'établisse, tout ça. Les données arrivent qu'après 6 mois, 1 an, il n'y a pas de chemin, puis il n'y a personne qui m'aide, puis les hivers sont durs, oh, puis la vie est très pénible. Savez-vous ce qui arrive? Il y a beaucoup d'enfants. La famille Donné quitte le milieu. Maintenant, ça va pas très loin. Parce qu'il y avait déjà des gens pas trop loin de l'Égypte, c'est encore la civilisation, pas loin de Montréal. C'est quand même dans le bout de l'Orient aujourd'hui. Monsieur Donné est mort à Casper, qui est juste à l'intérieur de l'Orient. Ça a fait 10 ans avant que les Donné reviennent ici. Mais Faubert, lui, arrive. Faubert, c'était la tête des fourrures. Son père a fait la tête des fourrures. Son grand-père a fait la tête des fourrures. C'est un dur. Il n'a pas peur de quoi que ce soit, la mère Faubert. De toute façon, c'est pas lui qui va tailler les arbres toute la journée. Parce que la tête des fourrures l'a fait vivre. Il a fait vivre son père avant lui. Alain Faubert et son père Gabriel ont monté la Lièvre pendant des années ces gens-là, un petit peu chouchou, un petit peu pas assez affronté, puis Todd Olivier, il faisait de la concurrence à deux compagnies, la compagnie de l'Équipson, la compagnie du Nord-Ouest, les gros, les grosses compagnies organisées, puis ici c'est indépendant, ils appellent Teddy Trader, les indépendants. Il montait dans l'IF, allait rencontrer des indiens, avant qu'il y ait des parce que le change, foutait avec les grosses compagnies. Vous avez dit que c'est des parasites? Oui, c'est des parasites. On gagnait leur vie pendant plusieurs années. Allez, quand vous avez comme ça, la vraie vie, ça c'était le genre de bonhomme. Vous voyez, ça c'est du vrai monde, ça c'est pas des catégories qui arrivent. Anna Faubert qui regarde le côté de la rivière, qui dit, moi je vais acheter un parasite toute l'année, des années, de toute façon il va se retourner dans le bout de la lumière. Il leur achète un bon petit parti. Il n'y a pas besoin de beaucoup de terre, lui, Anna Faubert, il veut bâtir un pot de terre de fourrure. Alors il achète un petit domaine d'air et des données se réfugient aussi plus tranquille et plus utilisé, puis il fait sa vie, il défriche quelques arpents de terre, quelques arbres, puis là il bâtit son poids de tête de fourrure, continue sa vie. Des choses intéressantes à lire. Anna Faubert, Marie, la fille d'un des données. Moi j'ai l'impression que ça a fait scandale, je ne l'ai pas prouvé encore, mais je suis certain que ça a fait scandale. Ça fait scandale. Parce que vous allez voir beaucoup d'histoires d'Ontario, les classes sociales étaient encore visibles. Les Autochtones jusqu'au bois d'échelle. Les Canadiens français, juste un petit peu au-dessus. Les Irlandais catholiques, juste au-dessus. Les Irlandais protestants. Les Écossais, les Britanniques en tête. Ça, c'est une réalité sociale. Il y a beaucoup de ça qui est déterminé par la richesse, l'aisance, l'instruction, tout ce qu'on veut, c'est tout ce qui donne du cachet, tout ce qui donne du respect aux gens de leur vie. Ça, c'est la rebelle de la classe sociale. Mais il y a des choses intéressantes que vous avez ajoutées à mesure que j'en moi, je découvre à mesure que je fais des recherches, que les choses sont très compliquées. Alors, Anna Faubert, et là, il est jeune, il aimerait donc savoir dans quelles circonstances les deux sont rencontrés, etc. Baïge Dunning, c'est le patriarche. C'est un homme qui est déjà très âgé, qui a 4 fils. Il est mort en 1807 à Casburn. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il compte beaucoup. Mais ses 4 fils sont très importants. Il y en a 2 qui sont déjà mariés, il y en a 2 qui vont se marier, plus tard, ils ne se marieront pas. Ils sont tirés sur des situations, il y en a qui sont venus dans la Gatineau. William, on va s'en souvenir, il s'est appelé à Buckingham, il ouvre un magasin à Buckingham. Zalman s'en va dans le fond des terres du canton parce qu'il y a eu des choses dans le bout de Bear Brook parce qu'il y avait une espèce de ruisseau là, des choses dans le fond du canton et quand on les voit dans l'enfant. Puis un autre des fils, j'ai dit Zalman, c'est peut-être pas le même. Un de ces fils-là a une fille qui s'appelle Mathilda. Mathilda est une jeune fille très intéressante pour Anna Faubert, puis Anna Faubert est un jeune homme très intéressant pour leurs amis parce qu'ils sont. Là, moi je dis qu'ils sont mariés, mais il faut que je vous dise qu'il n'y a pas de prêtre dans la région. Là, je suis en train de découvrir que les mariages ont été solennisés des années après. Parce que qu'est-ce que vous voulez? On est dans le fin fond des bois. Puis c'est pas facile. Mais Mathilda et Anna Faubert ont eu 11 enfants. Non, ils avaient 8 ou 9 enfants, au moins que moi je sais.
Mais,
il avait réellement
pour sa
mère? J'aimerais ça le savoir. On ne peut pas le savoir là, mais au point de vue d'alliance stratégique, c'est très intelligent. Parce que les données ont beaucoup de savoir-faire, ont beaucoup d'instructions, ont peut-être même assez de l'argent aussi. C'est des gens qui ont certainement quelque chose à apporter aux Faubert. Puis qu'est-ce que les Faubert ont apporté aux données? Une connaissance enraciné dans la région qui est incroyable parce que ça fait 3 générations qu'Anna Faubert est là. Puis Dunning, comme beaucoup de familles américaines, ils veulent faire du commerce. Les anglophones aiment faire le commerce. Quand on fait du commerce, il faut connaître les gens. William Dunning qui ouvre un magasin à Buckingham, puis là, ça c'est son beau-frère, Anna Faubert. Mais là, il y a la soeur de William qui ouvre son magasin. Alors ça, ça va bien le commerce, là. Parce que Anna Faubert connaît bien les Indiens. Connaît bien la région depuis 3 générations, connaît tous les raccoins, ça, etc. Puis la tête, des fois, il en fait déjà. William Dunning, il a fait du commerce des fourrures. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que c'est le commerce dans ce moment-là. Le, les forêts, ça s'en vient. Puis aussitôt qu'on va commencer à couper des arbres, William Dunning va en faire la coupe du bois. Il va faire de l'argent avec ça. Puis quand il commence, il a des fourrures encore. Puis quand il n'y aurait plus de fourrures, même Madame Faubert, depuis son père, là, moi, je suis dans les registres de paroisse et tout ça, puis je vais voir l'hôpital. Donc, Gabriel, après 10 ans, on l'appelle marchand de bois, en fin des années 1820. C'est plus un traiteur de fourrures. Alors, la vie avance. Quand mon petit, Madame Faubert, il avait 16-17 ans quand il a rencontré ma couple de années. Il a commencé à avoir des enfants de 17, 18, 19. Alors, 10 ans plus tard, c'était un jeune homme, un an, puis là, il commence à faire la coupe du bois, qui va peut-être agrandir sa terre, cultiver un petit peu. Alors, tout ça, c'est en mouvement. Mais au début, là, avant qu'on parle des grosses arrivées d'immigrants, là, on est, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y a quelques noms canadiens français. Marin, la femme, Hébert, Belanchot. Ça, je découvre ça dans les registres. C'est les anglophones qui ont fait l'histoire du canton, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que la tête est traversée dans les registres. Écrit en français, qui ne peuvent absolument pas le fichier. Moi, je suis en train de prendre la peine. Là, du coup, si tu fais un petit peu, il n'y a pas d'église du tout en haut du Donceau. Le Donceau, c'est au niveau de Hartford. La plus proche église, c'est Rigaud, proche de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a? Les deux premiers petits-enfants de la mère Faubert et de Mathieu Donaldou se font baptiser à Rigaud. Ça, je l'ai trouvé. Ça me dit quelque chose tout de suite. C'est que une protestante a accepté un catholique. Parce que Mathieu Donaldou signe le registre à Rigaud. Vous savez comment c'est important quand on fait des recherches historiques? Qui est où et qu'est-ce qu'ils font? Alors, moi, j'ai vu le registre de la parole de Rigaud. On dit que Mathieu Donaldou est là et qu'elle signe le registre au baptême de son enfant. Parce que personne ne s'est signé son nom à l'époque. Quelqu'un qui s'est signé à l'époque, c'est tout de suite quelque chose, un niveau supérieur dans la société. La plupart des gens, ça vit bien, que Gabriel soit père, c'est pas qu'il est vivant. Ça me dit autre chose aussi. Ça me dit qu'on s'est donné la peine d'officialiser le mariage. C'est pas fait vraiment la cachette. C'est pas. On a voulu que ça soit reconnu. C'est monsieur, madame. Faubert, ben, c'est pas. Puis, Mathieu Donaldou est là. Alors, ça me dit aussi des choses. C'est pas le scandale que j'allais penser. Là, je suis vraiment pas certain que je continue à avoir des côtés parce que je suis en. Ça fait un an et demi que j'ai déjà. Puis, ça continue. C'est déjà très intéressant. Alors là, je viens de vous dire que les limites, la plus proche, c'est à l'ego, puis c'est là que les limites, si Faubert sont baptisés. Mais qu'est-ce qui arrive? Les choses se développent. À aller du côté d'Ottawa, du Buckingham avec les gens. Les Indiens, ça, c'est des missions. Ça. Il faut que les missionnaires catholiques aillent voir leurs Indiens de toute façon, ils ont toujours fait ça. Puis là, à dire que plus de monde, on va ouvrir une autre mission à Montebello. 1815. Vous voyez, on avance un petit peu. 1815, on est rendu à Montebello avec les missionnaires, ça s'appelle Monsieur Roux, c'est des abbés, donc on dit Monsieur. Qu'est-ce qui arrive? Les deux prochains enfants, que je vois baptiser les petits Faubert, ils sont baptisés à la mission de Montebello. Puis pour une fois. Puis ça ne fait pas deux semaines que j'ai trouvé ça, puis ça me fait bien, ça me fait du bien au cœur. J'ai vu une signature de la mère Faubert. Là, je suis vraiment enchanté. Parce qu'on me dit que le père est absent. Le père est absent. Ça veut dire qu'il est toujours dans le bois en train. J'ai l'impression que c'était un petit peu un. Pas un très bon père de famille. Il est toujours dans le bois en train de faire ça. Son comment, qu'est-ce que c'est? Le fond de Mathilde est à la maison avec lui. Pas drôle. Mais là, il est dans l'église, dans Montebello, qui signe son nom. Faubert, Faubert, le signe. Faubert. Les gens pouvaient demander des questions. Moi, j'ai fait la généalogie, parce que moi, je suis généalogiste, essentiellement, puis je suis un petit peu. Je vous dis tout de suite que le grand-père d'Anna Faubert est venu de Paris en 1754. Faubert. Ça, c'est pas officiel. Si les gens posent des questions, c'est Faubert en partant de France. On arrive au Canada, vous savez ce qu'il y a de on ne va plus à l'école, on sait plutôt comment écrire les choses. On arrive chez Curie, on dit que je m'appelle Gabriel Faubert, c'est le fils de la famille, je m'appelle Gabriel, il va rentrer à l'écrire. Le Curie en appelle Gabriel Faubert, quand il écrit ça, je ne sais pas, il faut le faire. Parce que la prononciation change. Le premier, c'est Jean-Baptiste, la ville de Paris. 11 enfants, tous baptisés à Oka. Ça aussi, ça m'intéresse, parce que si vous savez un petit peu votre histoire, c'est Oka a deux groupes d'autochtones, les Iroquois et la Tonkin, en 1820, dont je parle aujourd'hui, c'est les Iroquois, c'est pour voir. Les Algonquins sont allés à Maniwaki. Oka, c'est
okay.
L'autre côté de Vaudreuil.
C'est proche de Montréal, avec le financier.
Alors là, que Jean-Baptiste, c'est à l'étranger, ça prend 54 à Oka. C'est intéressant parce que maintenant, vous avez la date de Chaulieu par rapport. Donc, il faut se dire qu'il y a peut-être un mélange de sang indien avec moi. Moi, je le cherche encore. Ça m'intéresse. Des choses, il y a toutes sortes de questions qui restent sans réponse dans l'histoire, ça c'est normal. Ça peut prendre ma vie avant que je vous des réponses à ces choses-là, peut-être quand je ne l'ai pas. Mais Jean-Baptiste, la ville de France, Faubert. Gabriel, c'est pas les églises, ça devient Faubert. Puis des fois, on voit Faubert. J'ai lu P-H-O-B-R-T, j'ai lu Faubert, F-O-U-B-R-R. J'ai vu tout ce que vous pouvez, je l'ai vu, moi. Mais rentré à maths, ça, je suis très content d'avoir vu la maths Faubert, si ils sont là, je ne sais pas où B-R-T est. Mais je pense que ça. Savez-vous ce que j'ai vu? Là, j'ai vu 8-9 enfants. Très tard, un des plus vieux des à l'église, à Tottenham maintenant, parce qu'à mesure que les églises ouvrent, les Faubert s'accrochent pour les baptins. Un des derniers Faubert baptisés à Tottenham, c'est dans le registre, là, c'est le registre, et une petite fille de la famille, Marie, c'est le registre. On va dire que le 29 ans, nous, une présence importante, ça veut dire que tout le monde montre à ses enfants, lui, la vie. C'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Mais si Anna n'a pas appris de son père comment aller à l'école, ou je ne sais pas comment tu peux aller à l'école, il peut la donner des foules, il était dans le bois. Mais Mathilda, le soir, a dû lui montrer à écrire son nom. C'est pas impossible. Là, vous voyez, là, je reviens au mélange entre le français et l'espagnol. Mais la famille Faubert s'est enrichie en se joignant à une famille. Donc, je te donne. Parce que les petits-enfants d'Anna, ça veut dire les prix. Anna a payé le prix. Parce que Anna, on n'aurait pas pu parler en français à ses petits-enfants. Parce que la mère avait une bonne une grande famille. Son enfant, un petit-enfant marié, Morin, qui s'est devenu Morin. Puis les petits-enfants, la mère Faubert, ça peut être félicité, etc. C'est pas un drame. C'est une réalité. Il faut avoir parlé comme ça en masse. L'assimilation de l'autre groupe. À tel point que quand on a interviewé Mme Faubert, on dit dans les années 1910, cette dame-là, qui était déjà très âgée, elle a dit « Ah oui, je me souviens de mes ancêtres. Il y avait deux frères. Il y en a un qui est allé dans l'Ouest, il y en a un autre qui est resté. » Puis cette dame-là ne connaissait pas ses ancêtres. Donc c'est pas ça qui est fait. Trois générations, cette femme-là a manqué trois générations. Cette femme-là se rappelait jusqu'au petit-fils d'Anna, qui effectivement remplissait plus ou moins ses conditions d'être, il y en a un qui était dans l'Ouest. Mais tout le côté francophone de ses ancêtres dans cette dame-là, qui parle en 1906, c'était oublié ça. C'était comme un autre monde, puis les gens ne savaient plus. Qui avait eu des ancêtres. Ben, on a discuté. Quand on a interviewé cette dame-là, elle n'a pas parlé de la France, elle n'a pas parlé de. Non. Alors, c'est ça, un petit peu le drame. Mais là, si on revient au début du canton, c'est encore le mouvement des gens qui ont quitté. Oh, ça c'est. Je ne posais pas beaucoup de questions, mais ça avance.
Moi, ce que je veux savoir, c'est la seigneurie. Ça remonte.
C'est tout début.
Oui,
ça me donne
des gens. Pour ça, il y avait tout ça. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de savoir sur ton seigneurie.
Oui. Pour ça, tu en as une.
Alors, pourquoi tu dois aller. Là, je me demande pourquoi tu dois aller faire l'esprit au seigneurie.
C'est
pour savoir.
Quand tu es allé à l'égo, les deux premiers enfants baptisés à l'égo, ça s'est donné 800. 8 et 1809. La mission de Montebello, l'Église n'est pas passée avant 1815. Puis je pense que j'étais dans le registre, on va dire que c'est mars 1815. Puis dès le mois de septembre, le registre est avec les Faubert en acte. Ça n'a pas pris 6 mois pour que les Faubert fassent quelque chose à l'Église, à Montebello, la même année que ça a ouvert. Puis aussitôt que la mission de Montebello est assez organisée, on a envoyé des prêtres à Portinaire, les prêtres ont bâti une chapelle à Portinaire. Tout de suite, les catholiques, pas seulement Faubert, mais les catholiques du canton, traversent la rivière, puis c'est plein. Les Irlandais catholiques et les Canadiens français qui sont baptisés abominable par des tutelleries bilingues. Powers bilingues. La Bérope bilingue. Avec chacun le problème. La Bérope a de la misère avec son anglais. La Bérope a de la misère relativement avec son français.
Mais à cette époque-là,
yes.
C'est pas des opulents.
Ça c'est intéressant. C'est pas des opulents. C'est des suppliciés. Ça c'est intéressant, les suppliciés. Parce qu'ils accusent. La seigneurie, c'est encore religieuse. Il faut que vous compreniez ça, c'est
c'est
ceux qui connaissent
pas.
Les oblats, les gens savent que les oblats sont une congrégation.
Traditionnelle.
Les jésuites, c'est une congrégation catholique. Il y a toutes sortes de congrégations. Les dominicains, c'est une congrégation très bien connue. Puis ben, les suppliciens, c'est la même chose. C'est un ordre.
Ils
sont péchés.
Ils
sont péchés.
Il y en avait beaucoup à Montréal.
À où?
À Montréal.
À Montréal. C'est savoir de les suppliciens. Sont propriétaires de toute l'île de Montréal. Yeah. Mm-hmm. Les suppliciens, jusqu'à temps qu'on dise, on a changé de personnel pour avoir soin de nos missions, on a besoin d'aide. Vous savez, si vous allez la France envoie des jésuites. Oh! Les jésuites prennent la place. Ils sont très structurés, ils ont beaucoup de pouvoir. Les jésuites donnent un coup de main aux suppliciens et tôt ou tard supplantent les suppliciens. Les missions ont été. Vous savez, les martyrs à la Nouvelle-Guinée, qui sont appelés européens, c'est les jésuites qui sont fait torturer et tuer par des violons, etc. Les jésuites, déjà, vous voyez, c'est eux qui donnent un coup de main à la démission. Mais. Oui. Moi, je ne peux pas le voir, ces choses-là. Moi, même quand je lis les livres, je ne peux pas. J'ai l'intéressant de dire, je ne peux pas. Il y a des choses qui sont.
Mais il y a des
affaires que. Moi, c'est je suis très pénible. Ça, c'est encore un problème. Je n'ai pas pu les autres dans ma tête.
Les deux ont tort, mais en même temps, les deux ont raison.
Oui, mais moi, je continue à essayer d'être la justice aux deux obligés.
Ouais.
Alors, les suppliciens, avocats, qui sont responsables, vous savez, ils ne sont pas les avocats par hasard. Les suppliciens avaient déjà une petite mission pour les Indiens qui venaient se réfugier parce que quand ils étaient massacrés partout, il y en a qui venaient dire aux Français, aidez-vous, on est en train de se faire tuer ou on meurt dans la forêt. On a eu deux missions sur l'île de Montréal, c'est les suppliciens qui avaient les deux missions. Puis à cause des gens qui vont être dans le code aux Indiens, il fallait qu'on déplace les missions pour les éloigner des codes. On est en train d'écraser les Indiens avec tout ça. Alors, les petites missions toujours à la cachette des Suppliciens essaient de protéger leurs Indiens. Deux missions sur l'île de Montréal, puis enfin, on allait de l'autre côté de la grande montagne, dans mon cas aussi relativement isolé de toute l'influence de la civilisation. Puis là, les Suppliciens continuent à faire leur mission de l'Ottawa à partir d'Oka pendant des années. Les autres arrivent en 1844, pour toutes sortes de raisons. Encore, il n'y a pas assez de clergé, donc les gens de Montréal demandent d'autres prêtres de France. On envoie des oblats. Première chose qu'on sait, les oblats ont été énormément influents dans toute la vallée de l'Outaouais. Matawa, Maniwaki, ils ont beaucoup de mérite et ils ont fait des choses pas toujours.
Je pense
aussi
qu'il faudrait dire. Après la conquête, les Français ont gardé, leur système. Alors les Français avaient le système de seigneurie. Ils ont gardé le droit civil, ils ont gardé c'est-à-dire que les Anglais ont pas fait leur enlever le droit de leur école. Parce qu'ils avaient des très mauvaises expériences en Irlande, ils se sont dit, on n'est pas pour reproduire au Québec les problèmes qu'on s'est créés en Irlande, on va les laisser tranquilles, éventuellement, on va les surpeuper, puis ça va les assimiler. Alors, du côté du Québec, de la rivière, c'était un système de seigneurie où il y avait le seigneur qui avait un gros lopin-terre, puis lui, il pouvait distribuer de ses terres à des familles. Puis les lots étaient le long étaient une bande étroite qui arrivait à la rivière. Donc, c'était comme tout le long du Saint-Laurent, puis c'était la même chose aussi de la rivière d'Itaoué. Alors, par exemple, à Montebello, il y avait la seigneurie et le
de
Pion.
Tu vois, quand tu me demandes la question, parce qu'il faut que je cherche. Le système de possession des terres au Québec, depuis toujours avec le vieux français, c'est la seigneurie. Quand les Britanniques gagnent la guerre, la bataille de Tannerheim, ils respectent ce qui civil déjà au Québec, le droit civil est laissé tel quel. Tout le système des paroisses catholiques est laissé tel quel. Tout le système seigneurial est laissé tel quel. Il y a des raisons pour ça. On ne peut pas antagoniser 60 000 Canadiens français pour de mauvaises raisons. Deuxièmement, il y a l'école de aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous tenez qu'on a beaucoup de choses à faire qui ne veulent pas antagoniser trop de gens. De toute façon, on l'a dit oui, déjà ça. Les Français, ça marche bien avec les Français. Quand les Britanniques arrivent, s'ils veulent faire de l'argent avec les fourrures, la dernière chose à faire, c'est d'aller tout doucement, parce que les Français ont déjà tout un réseau d'établis. Ça marche très bien avec les autochtones. Don't rock the boat. Tout va bien. Ils sont là pour faire de l'argent. La dernière chose à faire, c'est de pas changer trop de choses. Mais quand les royalistes arrivent, ceux du Saint-Laurent, ils commencent 40 000. Depuis 1792, il y a déjà 40 000 royalistes dans le Canada. Il y a eu des pressions d'exercice, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi, on a fait des pressions à Québec. Puis la province de Québec, ça couvrait tout. La province de Québec, après la conquête, elle est juste au Mississippi, Louisiane, tout ce qu'il y avait autour des colonies américaines. C'est ça le Québec, c'était pas la province du Québec. L'Outaouais, l'Illinois, moi j'ai des ancêtres qui ont fait des fortunes en Illinois, c'était tout un monde français, on appelle ça la province de Québec, Canada ou Canada. Il y a des pressions exercées à Québec, parce qu'il y a 40 000 loyalistes dans le Beau-Canada. Vous autres, les loyalistes, on ne veut pas vivre comme vous faites l'autre. On n'est pas des catholiques, on est des sujets britanniques, protestants, on va avoir une église protestante, on va avoir. On n'est pas habitué aux régimes seigneuriales. Land tenure dans le monde anglais. Land tenure. Tu achètes un lapin de c'est pas toi. Le type qui travaille, il y a des scellés qui étaient à la Seigneurie, la destination de Pont-Évêque. Il y avait des scellés, des ancêtres qui viennent de Saint-André-Alain. Chaque année, les ancêtres allaient voir le Seigneur, qui donnaient des boisseaux de blé, 5-6 pouces de poule, puis 2-3 vaches. Ils devaient payer au Seigneur. Oh, le Seigneur les protégeait avec les soldats. Il y avait un moulin, c'est le moulin. La responsabilité du Seigneur, etc. Maintenant, les loyalistes en Ontario, non. Je ne veux pas bâtir mon moulin, je sais comment bâtir un moulin, puis je vais avoir ma terre à moi, puis je ne veux pas avoir tout le catholique trop proche. Alors, qu'est-ce qui arrive? 1789, on divise le problème de Québec, l'ancienne en deux. Puis on parle du Québec, bon. Le Bas-Canada, puis le Haut-Canada. Le Haut-Canada, ça, c'est ce qu'on appelle le Nord de l'Ontario. C'est à peu près exactement. La première.
À ce moment-là, quand tu parles de Canadien, le Canadien, c'est le Canadien français. Parce que les loyalistes, les anglophones qui viennent ici, ce sont des Anglais. Ils ne sont pas Canadiens. Les Canadiens français, eux autres, ça fait des années, ça fait des générations qu'ils sont ici. Puis leur lien avec la mère patrie est de très loin, parce que très longtemps, les Français les ont emmenés. Puis qu'ils les ont laissés dans leur misère. Alors, on ne compte plus sur les Français, on ne compte pas sur Paris. On est des Canadiens. Un Canadien, c'est un Canadien français. Puis les Anglais, eux autres, ils restent anglais. Ça, c'est quelque chose qui va demeurer, le sentiment va demeurer jusqu'au deuxième, aux deux guerres. C'est pour ça qu'il y a une reconstruction, par exemple, que les Canadiens français sont dit, pourquoi est-ce que moi, j'irais me faire massacrer pour une guerre par rapport à l'Europe qui n'a rien à voir avec moi? Tandis que les Anglais, les Canadiens anglais, disent, la mère patrie a besoin de nous. Toute la mère patrie pour les Canadiens français. C'est ici. Les Français, on s'en fout.
C'est un peu.
Puis c'est ça, c'est quelque chose qui nous est resté.
C'est très grave de nous, ça, encore.
Oui.
Alors, ouais. Alors là, on a deux mondes maintenant. Et les deux mondes sont tellement différents. Il y a juste une rivière qui les sépare. Il y a deux super-héros. C'est pas large. Au niveau de Buckingham, les gens, c'est pas large. D'un côté, c'est très loyal à l'Angleterre, à la religion protestante. Puis pas seulement des sentiments positifs. Sentiment très négatif, il faut éviter tout ce qui relève du pacte. Puis les Jésus n'ont pas bonne réputation, puis le pouvoir ecclésiastique, toutes les antipathies que vous vous souvenez là, du passé, le bagage du passé, ça pèse lourd. On se regarde de chaque côté de la rivière avec l'histoire. Par contre, comme je vous l'ai dit, les alliances, les gens ordinaires, ceux qui ont fait de la recherche, c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Les branchots qui vont m'habiller. Première génération de ma vie, francophone. Deuxième génération, oups, on commence à venir en anglais. Une nouvelle race qui est forte, une race qui tient un nouveau groupe, ça va devenir des francophonies. Puis des fois, ça va devenir, pas des francophonies, ça va devenir des assimilés. Puis ça, c'est dans les mœurs, c'est comme ça que ça marche. Alors là, la seigneurie de. On va en parler un petit peu parce que la seigneurie de Montebello est très vieille. C'est Monseigneur Laval qui a dit ça. Monseigneur Laval, très tôt dans la colonie, il a vendu ça à des gens. Des gens d'une certaine importance, peut-être pas aristocrates, mais presque. Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a eu dans la conquête, quand on perd le Québec aux Angleterres, puis on vend ça. Il y en a qui sont tous en France. Par exemple, il y a des Français qui ont dit bye-bye. Plus il y avait de l'argent, plus il y avait des gens qui disaient bye-bye. Le bonhomme dans son champ avec deux fourches et une vache, il ne dit pas bye-bye au Canada, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun retour possible en France. Il y a des choses évidemment qui ne sont pas belles. La pauvre détresse de son grand-père, il n'y en a plus. Parce que les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas pauvres, ça n'est pas beau là-bas. En tout cas. Bonne affaire, les jeunes demoiselles. Alors, il va s'établir, il va devenir très bien, parce qu'il a déjà de l'argent en temps. Sans plus tard, une belle famille, il va aller aux affaires de l'église dans son village, il va peut-être devenir maire. Puis ça, on voit ça aujourd'hui. Un jeune député des années 60, 20 ans plus tard, c'est lui qui est directeur d'une grande entreprise. C'est pas, ça se répète à toutes les générations. Alors, voyez comment c'est intéressant de situer les choses. Maintenant, il faut bien même en avoir une. C'est ça, finalement, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait la vie indienne, tout ça. Moi, je n'étais pas plus dans le cas. Je ne pense pas que c'est lui, il y a d'autres à mettre sur. J'ai vu des photos qu'on passait. J'avais l'impression que ça doit être un dieu de ça. Non, là, je vois qu'il y a aussi son nom. Il y a des années 1900 ans, il y a un an. J'ai l'impression qu'il a fait une très bonne vie. Il a participé à la vie politique du canton au début, quand on a pas mis d'autres. On s'est réunissait chez Amal Faubert pour les réunions politiques et administratives et tout ça. Alors, lui, les doutes que j'ai eus à propos de son intégrité au début, je pense pas que j'avais raison. Mais tu sais, on aime ça, aller chez les gens. Moi, je pense à un moment donné, il va citer tout ça. Alors, c'est toujours compliqué. Mais le vrai monde, c'est bien plus intéressant que les différentes catégories. Moi, à chaque fois qu'on dit quelque chose, j'aime chercher un exemple, vrai ou faux, une vraie personne, je peux prouver des choses de comme dans les faits historiques. Alors là, si on dit au canton de Cumberland, parce qu'on n'avance pas très vite, savez-vous que le canton non plus a pas avancé, ça fait bien du temps. Puis là, vous allez avoir la base avec ça. Puis là, il faudrait que j'aille un petit peu en avant, parce que les gens vont poser des questions plus récentes, etc. Mais je suis certain qu'avec la base que je viens de vous expliquer, vous allez situer beaucoup de choses. Alors, jusqu'en 1840, imaginez-vous, jusqu'en 1840, il y a presque rien qui se passe. Une poulet qui est bâtie à Bearbrook, dans le fond du canton. C'est parce qu'il y a un ruisseau. Les routes, il y en a pas un petit sentier qui traverse. Ça a pris des années avant qu'on voit les routes. Il y a quelqu'un qui est venu visiter le canton en 1845. Il y avait déjà des bateaux à vapeur en 1845. Alors, le bonhomme commence à Montréal, à la Chine, il monte jusqu'au. À Calignon, là, il a des rapides, descendu du bateau à vapeur, embarque dans une petite calèche, on charge tous les voyageurs à la piscine, je suis allé à la ville, on rentre dans un bateau à vapeur, puis là, on peut aller jusqu'à Vietnam. Mais lui, il ne peut pas aller à Vietnam. Son nom, c'est Alexander Muir. Il veut qu'on descende. On laisse descendre à Buckingham. Alors, on laisse descendre un soir à Buckingham. Il essaie de se trouver une place pour coucher, il a fait des petites maisons. Le lendemain matin, il prend un canot, traverse, s'en vient dans le canton de Cumberland. Il dit, qu'est-ce qu'il vient de faire dans le canton de Cumberland? Pas grand monde. Non, mais sa sœur, qui s'appelle Margaret Muir, puis la mariée à Findlay, Alexander Findlay, sont établis 3000 dans le bois. Puis là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'ils sont 3000 dans le bois quand il y a des terrains qu'on pourrait économiser sur le bord de la rivière? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés les 3000 dans le bois? Mais ça, c'est. L'explication de ça, ça va vous montrer toutes sortes d'obstacles à l'établissement des gens ici. Quand on. En 1780, 85, 90, tout ça, les Britanniques voulaient qu'on colonise ici. Première chose à faire, c'est d'arpenter. Survey. On envoie. C'est des militaires qui font des soldats, des officiers. On envoie les gens partout faire de l'arpentage. On a tout arpenté l'Outaouais, toute la vallée du Saint-Laurent. des beaux avantages. Tous les cantons ont de 10 à 12 000 sur 9 à 11 ou 12 000. Des beaux petits carrés, partout. Et sous tous ces beaux petits carrés-là, c'est ça qui s'entend. Le canton, c'est la base de toute la structure administrative. Et quand les comtés ont changé les structures, les noms, les districts, ça fait les structures. Le canton, ça, ça change. Le canton de Cambrai, on peut être associé avec la nouvelle structure de la ville de Ottawa, et le canton de Cambrai, de la même façon, ça va rester comme structure administrative. Toujours, toujours, il y a eu le canton, ça, ça n'a jamais changé. Là, vous allez dire, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tous les cantons, dès le début, le clergé, l'Église d'Angleterre, les Anglicans, vous savez que les loyalistes, tout ça, ça c'est des protestants, Anglicans, les loyalistes, c'est leur. L'Église anglicane a des privilèges spéciaux au début, puis les autres protestants ne sont pas contents. L'Église de la Reine, l'Église anglicane, a des privilèges. Qu'est-ce qu'on fait? Un septième de toutes les terres dans chaque canton est mis de côté pour le clergé. The clergy reserves. Oh, c'est beaucoup ça, un septième. Un septième du canton, ça, ça veut dire un deuxième septième, est mis de côté pour la couronne, the crown reserves. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste cinq septièmes. Puis on fait exprès, quand on écoute tous les termes, on fait exprès pour mettre un crown. You can buy this crown. Alors ça fait un domino. Puis quand les fenêtres sont arrivées, la petite terre qui était ouverte, c'était pas des belles terres sur le long de la rivière. Les données qu'on avait déjà pris, puis où ils s'appelaient Crown Clergy Reserve, on les envoie 3 000 dans le bois. Mais tout le drame du canton de Cumberland et du reste de ces cantons-là, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a eu après 10 ans que les gens arrivent et vont se trouver des. Là aussi, ils peuvent se passer en Crown et Clergy. Ben, les gens sont loin l'un de l'autre. Comment tu peux commencer un village? Quand les fenêtres sont 3 000 dans le bois, les Goldlightlays sont 2 000 par là. Beckwith est 5 000 en bas avec son petit moulin, en haut de la côte. Ben, le village a pris 50 ans à se développer. Les chemins, si tu vas payer pour bâtir un chemin pour aller chercher tout ce monde-là, tu as une personne à 3 000, tu vas bâtir un chemin pour aller chercher. Alors, ça a été un drame au point de vue de l'administration britannique qui n'a pas été très intelligent sur l'enfer. Ça a causé beaucoup de jalousie. L'Église anglicane est très contente, mais puis là, je commence à être spécialiste des tous les sectes protestants, les épiscopaliens, les presbytériens, les baptistes, les baptistes, tout ce que vous voulez. We want our share of the funds. On veut avoir notre part des choses qui l'ont pas eu. C'est arrivé longtemps avant qu'on accorde aux autres groupes protestants des mêmes droits. Alors ça, ça fait ta chicane, puis ça fait, ça aide pas les choses. Crown Reserve, c'est pas trop bien parce que on peut louer un terrain de la couronne, puis etc. Il faut payer quelque chose pour prendre à l'administration. Mais tout ça pour vous expliquer encore pourquoi ça a pris tellement de temps. Pas de chemin, les gens sont éparpillés partout, puis l'Asie est absolument on pourrait même pas commencer à l'imaginer avec, ben, c'est un pays très pénible. Puis j'ai dit, j'ai parlé à quelqu'un avec qui est né dans le canton il y a pas longtemps, puis elle m'a dit, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les pieds au canton, moi je n'ai pas le ils n'ont pas. Les gens ne veulent pas s'en rappeler de ça. Les gens ne veulent pas en parler. Puis longtemps, les gens, quand ils avaient vécu ça, ils ne voulaient pas s'en vanter. La première chose qu'ils voulaient faire, c'est oublier les 30-40 premières années. Puis quand il y avait finalement une belle maison, là, ils étaient en train de parler. C'est vrai que nous, pourquoi, madame, Faubert, qu'on était venu en 1910, ne peut pas dire grand-chose, mais des fois, comme la génération de Faubert, parce que ça n'a pas dû être un cadeau au début. Ça a dû être assez mental. Alors là, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive dans les années 1840. Puis il arrive un phénomène incroyable. Si on recule un peu et qu'on regarde ce qui est arrivé au 19e siècle, des millions d'Européens sont venus en Amérique. Laissez faire le canton Cameroun. Des millions d'Européens sont en Amérique. Parce que ça allait mal. Les îles britanniques se sont presque vidées d'une façon. C'était une hémorragie de gens qui n'étaient pas contents, qui souffraient de persécutions religieuses. toutes sortes de problèmes, famine, tout ce que vous voulez. Puis on s'est rué vers l'Amérique, puis c'est pas vers le Canada qu'on est venu, surtout, c'est vers les États-Unis. Puis il y en a qui sont venus vers le Canada. Si vous regardez un phénomène, la famine en Irlande, 75% des Irlandais qui sont venus en Amérique sont allés aux États-Unis. Puis 25% sont venus au Canada. C'est à peu près des proportions. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ça, c'est un phénomène qui est très important pour le canton de Caroline parce que les Irlandais sont un élément majeur de la population parmi les pionniers du canton de Caroline. Il y a deux sortes d'Irlandais, il y a des catholiques et des protestants. Oui. On ne mettra pas d'autres adjectifs parce que ce n'est pas nécessaire. Mais deux affaires différentes, savez-vous, c'est surprenant, mais les protestants arrivent avant. Les protestants ont un certain. Assez à l'aise. Il y a des raisons de quitter parce que la structure sociale, tout ça, ça change en Irlande. Puis ils disent on a une bonne chance de faire quelque chose de bien en Amérique, on va s'en aller. Puis ça, ces gens-là, souvent venaient vers le Canada parce qu'ils sont encore britanniques. Encore tout ce système aux États-Unis aussi, mais la République. Ça, vous allez voir là, au siècle dernier, la Republican Society. C'est des gens qui croient à la démocratie. The rabble is going to take over. Si on donne le vote à tout le monde, alors il y avait, au point de vue politique, il y a 100 ans, nous on pensait pas plus. Il y a 100 ans, là, les gens qui étaient instruits pensaient que c'était d'un certain droit divin, que ça c'était des bonnes personnes, bonnes familles, instruits, tout ça. Puis il y avait une classe qui ne serait jamais à la hauteur. Ce serait jamais instruit, ça serait toujours de la rafale, toujours des cultivateurs, toujours à leur place. Et nous autres, on sait comment les choses devraient fonctionner. Le bon Dieu a vraiment voulu seulement qu'il y ait une classe de la société qui puisse être assez intelligente, assez cultivée, pour avoir besoin de tout le reste. Puis si vous comprenez ça un petit peu, ça va expliquer le Family Compact en Ontario. Longtemps, il y a eu ce qu'on appelle le Family Compact. Ces gens-là ne voulaient pas céder aucun droit de vote et tout ça au reste des gens. Puis quand les gens ont utilisé leur tête, ça, ils veulent faire partie de la société. Mais la structure en place n'est pas toujours prête à accorder ça. Ben, ça, c'est le trend de la guerre aux États-Unis, parce que c'est un mouvement républicain, la guerre des États-Unis. Puis c'est les républicains qui ont gagné. Ils ont jeté dehors tout un paquet de loyalistes avec toute leur façon de faire les choses. Puis longtemps, ils ont été jugés ruffians, les Kentucks de l'antan. Kentucks, ça, c'était barbare. Les Français aussi avaient des idées un petit peu hautaines comme ça, structurer la société par en haut. Puis les Américains, eux, ont jeté ça dehors. Puis moi, franchement, je suis d'un côté assez populiste, là. C'est un dynamisme incroyable, mais c'est un dynamisme très violent. C'est un pays qui est né de la violence, d'une guerre, puis ils ont poursuivi leur violence envers les Indiens, les Autochtones, puis ça intègre une partie de la philosophie. C'est dommage à dire, mais c'est dans la fibre des États-Unis, il y a une tangente de violence qu'on trouve toujours et partout. Quand j'étais jeune, moi, le Vietnam, j'étais anti-américain au suprême, parce que c'est un côté de violence de. Si on regarde le Canada, c'est beaucoup plus paisible. Parce que les Canadiens français, il n'y a personne de plus conservateur et pacifiste qu'un bon cultivateur habitant au Québec. Ces gens-là avaient une fourche, c'est à peu près leur fusil et ça tire la main. C'était pas un peuple de guerre, ça. C'était un peuple très pacifiste et très conservateur. Alors, si vous voulez faire un contraste encore là, puis le Haut-Canada, c'est la même chose. On peut vraiment dire qu'on est un pays qui est né dans une structure très bien ordonnée. Paisible, autant que possible. Il y a eu la guerre de 1812, mais ça, c'était une escarmouche plus qu'une guerre. Puis on l'a gagné heureusement, parce que sinon, il n'y avait pas de Canada. Ça passait très proche en 1812, bye-bye le Canada. Si les Américains avaient gagné la guerre de 1812, ça serait plus fini. En tout cas, ils n'ont pas gagné. Mais vous voyez là une autre distinction. Puis ça vous fait comprendre un petit peu aussi le Haut-Canada. Parce que là, on a vu, là, le Parti du Canadien français, là, puis le Canadien, puis il y a la fierté d'être. Vrai Canadien, puis les autres, ils sont des Anglais. Si on se place du côté des Anglais, ils veulent amener au Haut-Canada des mœurs civilisées, l'ordre, l'instruction. Les Écossais, tout ça, c'est des gens qui font des écoles, des universités à Toronto, etc. C'est des gens qui ont le savoir, l'aspect de savoir, des ingénieurs, des commerçants, tout un autre monde avec des valeurs qui sont très légitimes. Le drame, c'est que c'est tout à fait au contraire d'un certain. Corpus de valeurs posées des Canadiens français qui sont très différents. Moi, quand je me plante sur le bord de la rivière le soir dans mon chalet, j'écoute qui a du plaisir dans le monde.
À Masson, on mène le diable, des camions, des motocyclettes, on en a les gens qui disent, voyons. Ils ont du plaisir, on parle de la vie à côté, dans la vie, il n'y a pas un bruit.
Les gens, je suppose que les gens s'amusent. Ils ne manifestent pas de joie de vivre autant que les chouchous de l'autre côté. Ben ça, c'est ça le drame des deux peuples. Et c'est pour ça que les oncles font ma vie, c'est canadienne française, parce que c'était bien intéressant, tout le monde en a envie. Puis, moi, quand je suis arrivé dans le groupe de la société historique, premièrement, je suis le seul homme, c'est toutes des femmes. Deuxièmement, je suis le seul francophone. Les premières réunions, c'était assez intéressant. Moi, je ne suis pas gêné. Bonjour, comment allez-vous? On dit, la caisse de l'air, bon, il est ici. What's holding him back? What's the problem? Alors, ça, c'est le drame culturel. Moi, je prends ça pour la vie. Puis eux autres, si je parle un peu fort, oh, les gars, ils vont avoir peur.
Oui,
c'est
juste que je prends une situation. Je suis en train de mon bureau avec vous dans le mais moi, d'un des côtés, je vais vous dire des francophones. Des fois, ils viennent pour discuter quelque chose concernant ce catalogage. Là, on commence à parler en français. On parlait très vite. Puis là, bien, oui, on va s'en aller. Je suis dit, je suis
au bout. Pas trop calme. Alors ça fait, moi je pense qu'on fait un beau mélange. Là, alors là on est dans les années 1840, ça commence, les gens commencent à arriver, les Irlandais, les Anglais, les Écossais, là il y a des milliers de personnes qui vont commencer à peupler le canton de Cumberland. Là ça va commencer à être intéressant. Plus de monde, plus on veut structurer. En fait, en 1850, il y a assez de monde. Ils comprennent, on fait une corporation. La ville, le canton de Cumberland est incorporé, constitué avec des droits civils, etc. On établit un conseil du canton. On se réunit chez Amar Faubert jusqu'à temps qu'on bâtisse l'hôtel de ville. L'hôtel de ville était de l'autre côté du cimetière, pas dans le village. Ça, c'était Wilson, le cimetière de ce côté-là. Ben, les Wilson sont encore là. Mais l'hôtel de ville, le premier hôtel de ville était juste de l'autre côté de la rue. Je pense que c'est les Scarves qui ont là, quelque chose de même. Plus tard, le village a été le noyau. Et ça, c'est le premier hôtel de ville. Alors, 1850, moi, j'ai eu le privilège pendant mes vacances de pas 12 ans, je suis allé à l'hôtel de ville, maintenant qui est à Orléans, ou dans le coin de Saint-Germain. J'ai demandé doucement à M. Jamy, est-ce que je pourrais consulter les premiers registres du canton depuis 1850? Moi, M. Serré, il ne faut pas toucher à ça. C'est sur une clôture, on va retrouver oui, on a fait la quelqu'un. Mais là, on va voir. Est-ce que M. Serré pourrait pas voir si c'est pas le cas? On installe dans un bureau et on me laisse consulter les premiers registres. J'ai passé 4 journées et demie plongées dans les premiers registres ici. Incroyable comme on voit les signatures, les noms des personnes, tout ça. Presque tout est visible. Là, on voit la structure administrative du canton qui a commencé. Avec un oui, ça c'est le maire. Ensuite, il y a 4 conseillers, et ça c'est 5 personnes. Les 5 personnes sont chacun responsables d'un quartier où on appelle ça les Ward, W-A-R-D, St. Andrew's Ward, St. David's Ward. Est-ce que vous avez un petit peu de religion là-dedans? St. David, St. Edward, tout ça. Oh, aujourd'hui, c'est pas des saints, c'est, on a remplacé par d'autres choses, Heritage Ward, etc. Mais dans ce temps-là, c'est saint, puis c'est pas Saint Patrick, c'est pas nécessairement des saints. C'est plutôt du côté de la santé. On structure le canton avec 5 quartiers. J'ai l'impression que le maire, c'est tout simplement un des 5 conseillers qui a un peu de prestige plus que les autres, qui est là depuis longtemps par respect. On s'est mis les 5, on dit who's going to be mayor? Non, who's going to be relief? Puis on dit ah ben, Archibald Petrie's been around for a long time, he'll be the relief. Alors c'est une question de. C'est pas les électeurs qui ont décidé. C'est les 5 conseillers. Les 5 conseillers, vous avez dit qui est-ce que c'est? Ben, c'est les gens les mieux en vue dans
dans la société à ce moment-là, les commerçants, les gens qui ont pas d'alphabète. Pas d'alphabète, j'ai jamais vu membre du conseil. On se réunissait chez lui. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait la plus grosse maison, un poste de traite de fourrure sur le long. Sur la longueur, parce qu'un poste de traite de fourrure, ça prend de la place. Puis on a bâti ça sur le long. Puis on a même, à un moment donné, on a donné de l'argent un petit peu à l'alphabète parce qu'elle a été gentille d'accueillir des conseillers chez lui pour les réunions du conseil. Puis aussitôt qu'on a eu une chance, on a bâti un hôtel de ville, puis c'est là qu'on s'est réunissait. À partir de la date, c'est le first meeting, le New City Hall. C'est quand même français qui a bâti l'affaire. Vous allez voir que quand la structure sociale, il y a toutes sortes de phénomènes, des ouvriers, des classes, il y a toutes sortes de démarcations. Hein. C'est correct. Alors, on s'est réunis là, puis ça, c'est...
Toutes les structures administratives étaient en anglais, c'est ça?
Oui. Ah, d'accord. Faut le dire de moins.
Donc, à
l'âge
probable,
vous avez
l'envie
de
voir
une maison, et des enfants ont un petit changement de la vie. Moi, les enfants, c'est encore français, les petits enfants. Ça dépend, là. Quand il y a des enfants dans la vie de Morin, quand j'ai eu un peu de Morin, une boîte dans la cadette, en fait. Mais les Morin ont assigné aussi. Le monsieur qui a vendu, ça c'est toi qui dis ça. On a soufflé dans la maison probable. Est-ce que vous savez que la maison Faubert, c'était pas 1905, c'est la maison Faubert. Napoléon Faubert. Mais Napoléon Faubert, il n'était pas là quand Chevalier m'a enseigné. Mon père a acheté en 1956. La maison Faubert, quand Chevalier, 13 ans, elle était sur le terrain original, le dos numéro 14. Vous savez, c'est Saint-Carré, dans le moment. La maison, elle est transportée ici, de là. Quand mon père arrive en 1956, puis va voir Jim Warren, qui se fait pas vraiment, Can you tell me that 1 acre, one acre, I want to build a fishing camp. On va aller à la fin de sa vie, monsieur Morin. Il a vendu un arbre à mon père, juste à côté des Ferguson. Jimmy Smith, son nom de fils, c'est Ferguson. Jimmy Smith. Alors, cette maison-là que je suis, dans laquelle je suis jamais entré, ça c'est là que le leader Jim Morin, dans la maison Faubert, encore sur. C'est-à-dire Napoléon qui demandait à quelqu'un, pas directement à Warren nécessairement. Et quand je suis arrivé en 56, c'était M. Morin qui vivait dans cette maison-là. Puis moi, j'étais un tout petit garçon, puis M. Morin m'a laissé prendre des grands pour me voir. C'était comme ça. Puis pour moi, c'était un vieux monsieur. Un vieux monsieur, moi, il y a des gens qui sont seulement 54 ans. Il y avait peut-être seulement. Mais je trouvais que c'était un vieux monsieur, parce qu'il avait vécu encore 20 ans avant. Mais vous voyez, puis là, on attend. Moi, je me souviens quand on a transporté la maison sur une bille. Ça, c'est très cher. On a transporté. Puis, la première fois dans ma vie que j'ai visité la maison Faubert, puis pour moi, c'était la maison Morin, c'est quand elle était ici. Puis, c'est là que j'ai soupé ce soir, puis j'ai mangé. C'est spécial pour moi, c'est tout. Puis, en tout cas, je voulais vous dire ça, parce que ça, c'est un peu aussi l'histoire. Alors, on retourne dans les années 40, 50, on est dans les années 50, parce que là, on avait la ville, puis mon magasin, donné un magasin. Là, c'est à date. Quand on vient dans les années 50, il y avait encore John Dunning. Puis moi, je pensais que c'était une vieille fille qui était là, ma soeur. Je pense qu'on va pas qu'elle était mariée. Puis c'est encore la famille Dunning qui était là. Alors ça, c'est... Depuis longtemps, la famille Dunning a beaucoup de prestige dans le canton.
Pourquoi ils ont eu l'eau
au camp de terrain?
Parce que lui,
c'est pour faire la retraite? Non. C'est parce qu'il n'y avait pas de problème pour avoir des terres dans ce temps-là. Premièrement, c'est un monsieur du Massachusetts. Garçon, qui veut dire, on va défricher, on va quand même peut-être monter des routes, on va s'assurer que les affaires là, parce que donner ça à quelqu'un comme lui, c'est beaucoup mieux que donner ça à quelqu'un qui ne s'en occupera pas. Deuxièmement, il n'y a pas de conditions pour avoir des terres. Maintenant, c'est sûr qu'un peu de prestige, c'est quand même, parce que toujours, là, ils vont laisser arriver, ils connaissaient des grands importants. Alors, c'est comme Philemon Wright. On pourrait dire, comment ça se fait que Philemon Wright monter la gueule du salaire, parce que savez-vous que Philemon Wright vient de Massachusetts, même chose que Danny. Sauf que, on peut suivre Philemon Wright plus facilement. Les Danny, c'est encore un mystère pour moi. Les prénoms des Philemon Wright, vraiment, il est monté en 1899, tout ça beau, puis il revient en 1800 avec la vie, les détails, les bulles.
Il y avait l'argent.
Les Danny aussi. Il y avait du monde. Philemon Wright avait 4 fils, puis Danny avait 4 fils. Je commence à voir quelque chose qui ressemble joliment à un phénomène. C'est un certain prestige, tu as du monde pour t'aider, tu as des moyens, on te donne ce qu'il faut. Ce qu'on a fait, on a tassé les mains pour que Philémon Rey est arrivé. Parce que quand Philémon Rey est arrivé là, dans la neige au printemps, il y avait des Algonquins qui étaient là à savoir, il n'avait jamais vu ça, des bœufs en train de tirer des charrettes. Et du monde, il y avait 40 personnes. 40 personnes ensemble pour les Algonquins, c'est un gros power, c'est quelque chose de. Puis là, il voit, en plein au mois de février ou mars, dans la neige, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ils ont vu très vite que c'était des moines, des gens qui étaient là pour les tasser, pour les faire rentrer plus loin dans le bois, parce que Philémon Rey n'avait aucune impression qu'il pouvait demander la permission à ce soir pour les déplacer là. Ouais, les plans d'Europe n'ont jamais eu l'impression qu'il y avait une permission à demander à qui que ce soit. Ça n'a jamais été dans les mœurs. Alors,
non, parce qu'à cause de notre supériorité morale.
On pensait.
Ça permettait de gratifier.
Ouais. Puis les mœurs et les Indiens ne nous ont pas convaincus du contraire, parce qu'on ne peut absolument pas comprendre des mœurs comme ça. Puis on n'a pas compris ça en Afrique, on n'a pas compris ça nulle part. Que les Européens n'ont jamais su comprendre qu'est-ce qui se passait là où ils s'en allaient. Alors ils sont arrivés, nous voilà, ôtez-vous du chemin.
On va vous sauver.
Oui, les missionnaires, ça a été le grand. Tout le reste. Tout le reste, c'est une histoire tragicomique. C'est pas c'est toutes sortes de choses assez tristes. Alors, depuis l'année dernière, je suis en train que je cherche encore à l'approfondir parce que j'ai pas de papiers. Moi, je suis un historien. Si ça me prend des papiers signés, pourquoi des choses comme ça? Finalement, je suis allé dans, ça va pas longtemps, de la documentation, les lettres de l'année donnée aux Archives nationales. Les cahiers entiers. Là-dedans, j'ai trouvé 3-4 lettres signées par William Dunham. Une par la Bible de 4-5 lettres, c'est des milliers de lettres. Alors, je cherche tout ce que je peux sur les gens d'ici, puis c'est pas facile. Alors, les données sont encore un peu un mystère. Une chose intéressante, c'est qu'il y a un donné, George Gibbs, le monsieur qui avait le magasin Haddad, il a écrit une espèce de petite biographie de sa famille. Je suis sûr que c'est très élogieux. Puis, ah, ça donne un souci dans la famille, tout ça, mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais. The trouble is, the Dunnings wrote the history, so nobody else is very important. Dans l'histoire de M. George Gibbs Dunning, il n'y a pas grand francophone. Parce que lui, c'est intéressant. C'est comme. Il était un peu le patron. Alors, M. Dunning a écrit l'histoire de l'amour à sa façon, puis d'une façon. C'est ça qui est resté dans l'image. On a expliqué beaucoup de choses dans le canton par les yeux de familles comme des Dunnings. Puis moi, s'il y a une chose que je veux faire avant de. Avant de terminer et publier mon livre, moi je vais montrer qu'un tiers à la moitié des gens dans les parages, c'est-à-dire les francophones, les et ça, il y a plusieurs raisons pourquoi les anglophones ne peuvent pas refléter cette réalité-là, c'est parce que un monsieur McGilvray qui a publié un livre, c'est Cumberland Pioneers, moi j'ai vu ça, puis aussitôt qu'il y a un nom français, je ne sais pas quoi faire avec ça, le Faber, c'est le Faber. Les noms, il ne sait pas comment interpréter les noms français. S'il traverse à Buckingham, je vais le registre qu'on donne, mais ils sont en français. Le pauvre monsieur, il ne sait pas comment interpréter ça. Moi, je suis allé dans les registres de Buckingham. Moi, tu es allé au Rico, moi, je n'ai pas de misère avec ça. Je lis des registres en français, puis j'ai tout un paquet des francophones, ceux qui ont du canton de Cumberland, branchot, puis tout ce monde. Ils vont faire, pas seulement à Fauvert, mais plus qu'on a, ils commencent par la Rico, ensuite ils vont à Montevideo, ensuite ils vont à Buckingham pour faire baptiser leurs enfants. C'est plein de francophones. Mais ça prend quelqu'un qui jette un coup d'œil de ce côté-là pour raconter l'histoire des francophones du canton parce que c'est pas n'importe qui peut faire ça. J'ai l'impression que je suis un des premiers qui a un peu les moyens d'arriver pour faire ça. Parce que même, c'est pas n'importe qui, même francophone, qui va aller prendre un registre comme de la petite nation en 1815 puis lire ça intelligemment. Ça fait des années que je construis des registres. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas, mais quand on a vu assez de formules catholiques, la façon dont on a fait les dates, comment on écrit. Ça, c'est toute une partie de la science de l'histoire, c'est comment interpréter les textes anciens. Si on a assez d'habitude avec ça, mais on commence à sortir de tout ça une histoire de personnes qui, sans ça, ne sont pas reflétées dans les bouquins, dans les livres. Puis moi, ça, c'est un rôle que je. C'est quelque chose que je, une tâche que je veux accomplir, tout en gardant l'objectivité pour raconter tout le canton. Mais pour une fois, j'aimerais ça que quelqu'un me raconte. Tout le canton, puis il faut que je connaisse tous les sectes protestants, toutes les affaires, puis il faut aller loin, hein? Parce que, vous voyez, ce soir, là, je suis allé chercher des choses qui viennent de loin.
Pour expliquer le canton de Cumberland, je n'ai pas parlé des guerres napoléoniennes, mais le monde est très compliqué. Là, on a 200 ans d'histoire à couvrir, puis tu peux industrie du bois, etc. Je commence à vous voir vous tortiller dans vos chaises, vraiment aller au carré, mais ça, c'est les débuts. C'est les débuts de l'affaire. C'est très compliqué, puis c'est très riche. Il faut aller chercher des morceaux partout. Puis je pourrais faire deux, trois autres soirées. L'industrie du bois, on n'a pas parlé, mais c'est une affaire. C'est mon rêve à commencer l'industrie du bois. Puis là, on va aller faire la tête des fourrures, on a fait l'industrie du bois. Là, moi, je vais me taire. Quelques questions, parce que franchement, c'est pas facile d'aller. Mais on a déjà eu quelques petites questions. Mais ça, c'est la meilleure façon. Je patine, là, mais tôt ou tard, on amasse les morceaux, puis ça fait. Ça va vous aider à interpréter l'histoire pour vous-même et pour les gens.
Oui, merci.
Voilà.
C'est quoi qui nous a vraiment
poussé à aller cette question? J'ai rencontré Ruth Parsons, la présidente. J'étais assis dans la cabine avec le groupe du samedi. Ils m'ont interviewé leur j'ai clarifié avec vous, j'ai dit, non, je ne sais pas, non, il y a un noir. À mon âge, j'ai fait des choses dans ma vie, puis là, je sens besoin, comme un jeune va confronter le monde, puis moi, j'ai fait ma marque, puis je suis un bon fait, j'ai prouvé aux gens, puis je suis un bon fait, j'ai fait toutes sortes de belles choses dans ma vie, j'ai dit, tout ça. Ensuite, avec un certain âge, j'ai dit, moi, ça ne tente plus de prouver quoi que ce soit à personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne aux choses qui sont précieuses de ma jeunesse, ma jeunesse garçon, le plaisir que j'ai eu dans le canton. Puis, on retourne à nos racines. Puis là, je suis à la généalogie. J'ai fait toute ma famille. Mais quand j'ai fini de faire ma famille, il faut que je fasse autre chose. Qu'est-ce que je fais d'autre chose? Les choses qui sont précieuses, j'ai dans le canton, puis les francophones ici. Puis moi, je commence à me soutenir la généalogie franco-ontarienne, parce que je sens que les racines de franco-ontariens, ça, c'est un peuple. C'est un groupe. Les Francophones, c'est un groupe qui n'a pas eu sa place encore. Les Québécois ne peuvent pas nous reconnaître notre place, ils ne nous connaissent pas. Puis les Anglophones ne nous connaissent pas. Moi, je suis troisième génération de Franco-Ontariens. Alors, si quelqu'un va raconter les Francophones, ça va être quelqu'un comme moi, mais ça prend un paillard. Ça prend quelqu'un d'assez connaissant dans l'histoire pour commencer. Puis les méthodes de faire tout ça. Sur 100 francophones, il y en a un qui va faire ça. Puis il y en a un qui va le faire un petit peu, puis il n'aura jamais su commencer. Un sur 1000, va peut-être finir quelque chose qui a commencé. Puis moi, je pense que je vais être quelqu'un qui va finir quelque chose qui a commencé, puis j'en ai. C'est comme ça. Parce que là, je suis bien parti. Puis à mesure qu'on avance, ça nous prend par les entrailles. C'est fort. Tu lis une signature, ça fait un an que tu cherches une signature dans un programme de Montréal, de Bonham, tu vois sa signature. Puis là, tu dis, moi, j'ai plus d'affinité avec Anne-Marie Faubert qu'avec mes propres oncles, parce que les deux oncles sont morts quand je connais ça. Et là, j'ai l'impression que je pourrais m'asseoir avec Anne-Marie Faubert. Let's talk about the fruit tree. Tu sais, puis là, je pourrais avoir une conversation intelligente parce que tout ce qu'on voit il y a 200 ans, pensez pas que c'est étranger à ce que vous êtes. Le langage, la langue française, c'est pas la langue de Molière, puis de Montaigne, puis de. C'est pas l'ancien, là. Anne-Marie Faubert avait pu vous parler vous-même ce soir. La même langue française avec vous. Vous aviez dit, moi, il y a une autre petite oublie, mais vous avez parlé. Comme vous êtes là, il y a 200 ans, c'est la même culture, religion. Moi, je suis né à notre région, on commence à s'éloigner un petit peu depuis 20 ans. Tout ce que j'ai connu dans le quartier dans lequel j'ai grandi à Ottawa, dans le quartier francophone, la même vie qu'Anna Faubert, quand j'ai grandi à Ottawa, je ne sais pas, les mêmes structures sociales, j'ai une affinité avec ce monde-là. Mon province, au lieu des protestants, mais ce n'est pas une grande province, parce que je parle de gens à Wood Parsons. Même Ruth, c'est pas que les professeurs qui connaissent l'histoire. J'ai vu que Ruth avait des choses. Nord de Marie, c'est pas tout le monde qui comprend toutes les complications entre l'Irlande du Nord, du Sud, du Québec. Ben, moi, je veux approfondir ça comme n'importe qui. Je vais le faire. Puis quand je vais expliquer des choses, là, j'ai écrit tout en presque du temps de j'explique des choses dans le temps. C'est parce que j'ai fait des recherches. Puis j'en sais déjà plus que ça. Il y a une chose que je ne sais pas plus que. L'enracinement des familles, ça c'est tellement beau, là, comme Ruth Parsons, des deux côtés, elle s'est imprégnée dans le canton ici, son père, de tout le monde. Alors quand j'avais fait mes appels, moi je vais m'asseoir avec Ruth, je vais lui dire, elle va raconter des choses qui m'ont étoffé ce que moi j'avais cherché. Parce que entre nous deux, on va se compliquer, mais c'est ça que c'est l'appel à la société historique. C'est comme ce soir, là, tout le monde a son bagage ici. Puis là, moi j'ai fait des choses, Jimmy Smith a fait des choses, puis après, il y a un temps d'aller voir. Alors, autre chose, parce que c'est loin d'être terminé, puis ça, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Là, il y a 200 ans, c'est loin.
Voilà. J'ai même pas pris une gorgée d'eau. Là, ils ont jamais changé ça, la petite
Oui, je l'ai changé.
Ça a changé.
Oh, moi, je l'ai pas entendu. Parce que j'ai pas eu beaucoup de moments de silence, vous pouvez admettre. Je suis capable de parler.
Merci beaucoup.
Merci de votre patience.